Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le point sur l'actu avec le journal de la nuit.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, plein soleil pour ce week-end de Pâques. C'est aussi un carton plein pour le secteur du tourisme, surtout sur le littoral. On va le vérifier dans un instant, mais à l'heure où tout affiche complet, les bras manquent. Vous entendrez un représentant des restaurateurs. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont les yeux rivés sur leurs préparatifs avant le grand départ dans le grand débat d'entre-deux-tours. La candidate RN était aujourd'hui dans le Calvados. Nous l'avons suivi. Après ce journal, notre invité politique, je recevrai Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine a commencé, annonce il y a quelques minutes des autorités ukrainiennes. Les frappes contre les civils se multiplient. Vladimir Poutine récompense une unité accusée d'avoir pris part au massacre de Boutcha. La ville de Nevers, nouvel emblème d'un hôpital public malade du sous-effectif. La seule maternité du département a dû fermer ses portes temporairement, mais une solution vient d'être trouvée. Le temps demain, c'est l'arrivée d'une perturbation en provenance d'Espagne. Et puis, juste avant la libre antenne, on jettera un coup d'œil aux unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
La météo a donc rempli le contrat pour ce week-end pascal. Du soleil sur toute la France, de belles retrouvailles sans doute en famille ou entre amis. Bon courage d'ailleurs si vous êtes encore sur la route du retour. Les professionnels du tourisme font les comptes maintenant et c'est un carton plein, Zoé Pallier, en particulier en bord de mer.
Oui, d'autant qu'ils ont été privés pendant 2 ans de ce week-end crucial pour bien démarrer la saison, contraints de fermer à cause du Covid. Écoutez, ces deux restaurateurs, le premier est à La Baule, le second à Arcachon, et ils ont affiché complet tout ce week-end.
C'est le dernier jour, mais on est encore plein ce soir. Beaucoup de gens viennent très tôt et reprennent la route après. On a eu beaucoup de gens qui viennent en famille, des Rennais, des gens de Nantes, qui se sont déplacés pour le week-end à La Baule.
Sur le week-end, on devait faire en gros 1000 couverts par jour. Sur des fréquentations qui sont similaires à 2019.
Voilà, le nombre de touristes qui retrouvent son niveau de 2019, voire qui le dépasse, par exemple à Trouville. On n'est pas loin des records pour un week-end de Pâques, toute année confondue, se réjouit Emmanuel Guillet, patron de 3 entreprises, notamment du BAC qui relie Trouville à Deauville et d'un magasin de location de vélo.
Toutes les conditions ont été réunies pour avoir du monde ce week-end, le soleil, 3 jours, puis toutes les 2 années qu'on a eues dernièrement. Donc les gens, oui, ont forcément besoin de s'évader chez eux.
Et puis ce week-end, c'était aussi le retour des touristes étrangers à Paris, surtout des Européens, avec des taux d'occupation allant de 80 à 100% dans les hôtels. C'est 5 fois plus que l'année dernière à la même période.
Zoé Pallier, ce week-end au soleil remet aussi en lumière le manque de bras, parfois cruel d'ailleurs, à l'heure où tout redémarre dans l'hôtellerie et la restauration. On s'est pressé ce week-end aussi sur les chemins de rando, comme dans les Vosges. Xavier Grimont, représentant des hôteliers restaurateurs du département, il se désole de ce manque de main-d'œuvre persistant.
Le problème, c'est qu'on ne trouve toujours pas de personnel. Eh bien, on prend des extras. On travaille avec des extras les week-ends, pendant des rushs. Et le problème avec les extras, c'est qu'on n'a pas le temps de les former. Et donc, la qualité du service en pâtit. Donc, les clients, forcément, s'ils attendent un peu plus longtemps, ils ne sont pas contents, puisque le temps de repas est un peu plus long. Et on est obligé aussi de restreindre nos capacités d'accueil. Donc, ils ne comprennent pas qu'il y ait des tables vides, alors qu'eux, ils sont en demande. Nous sommes obligés de prendre la main-d'œuvre qu'on trouve actuellement. Et on prend les personnes qui veulent bien travailler dans notre métier. Malgré qu'on a revu la grille de salaire, qu'on a revu nos conditions de travail. Mais non, ça ne suffit pas encore.
Xavier Grimont de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie dans les Vosges, joint par Carole Ferry. Ce très beau week-end printanier s'est parfois transformé en galère pour des passagers de la compagnie Volotea. Le personnel navigant de cette compagnie aérienne low cost est en grève depuis samedi, mais Volotea n'a pas modifié son plan de vol. Conséquence, des passagers ont vu leur avion annulé à la dernière minute, Johan Tritz.
Oui, plusieurs vols retardés ou annulés, parfois sans information. Et quand il y a une alternative proposée, c'est souvent un bus. Pour Séverin qui revenait des Canaries, c'est encore autre chose. Son avion retour qui devait arriver à Strasbourg a finalement atterri à Nantes, près de 800 km à l'ouest.
On a appris un peu par hasard par le personnel de l'aéroport, même pas par Volotea. Et même sur la porte d'embarquement, il était toujours marqué Strasbourg. Donc voilà, moi je suis monté dans l'avion, un peu forcé, parce que j'ai demandé les différentes options. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'option. J'ai dû racheter des billets en fait pour rentrer directement sur Luxembourg. Alors j'ai toujours ma voiture qui est à l'aéroport de Strasbourg qu'il faudrait que j'aille chercher. Il y en avait certains qui avaient trouvé un taxi pour aller à la gare, puis prendre un train jusqu'à Paris, et puis dormir à Paris à l'aéroport, puis reprendre un autre TGV pour retourner sur Strasbourg.
Une situation due à une grève du personnel à laquelle Maxime Vinet, membre d'équipage, prend part. Il dénonce les salaires dérisoires face à des prix de vente très bas. Certains vols sont proposés à 9 euros.
Beaucoup de monde se pose même la question comment ils payent leurs équipages. Et on voit comment on est payé, comment on est traité. Je suis au SMIC. Ils ont redemandé une baisse de salaire de 20 à 25%. C'est aberrant.
La direction n'a pour l'instant pas répondu à la protestation. La grève devrait être reconduite ce jeudi.
Johan Tritz. Pas de jour férié, en revanche, dans la campagne présidentielle. On est à moins de 48 heures maintenant du débat d'entre-deux-tours que vous pourrez suivre en intégralité mercredi soir sur Europe 1. En ce lundi de Pâques, Marine Le Pen a choisi le Calvados pour son dernier déplacement de terrain avant son face-à-face avec Emmanuel Macron. La candidate RN s'y trouvait en terrain conquis. Bain de foule à Saint-Pierre-sur-Dive où Marine Le Pen a fait 35% au premier tour. Reportage Alexandre Chauveau.
Saint-Pierre-sur-Dive n'a pas vraiment l'habitude de voir des personnalités politiques, alors la venue de Marine Le Pen ce matin sonne comme un événement accueilli comme une icône populaire sur le marché.
J'espère que vous allez être présidente.
Merci beaucoup.
Madame Le Pen, il faut vous voir présidente.
Ah hein, oh oui, il faut nous sauver la France là. Merci.
La candidate multiplie les selfies, prend des enfants dans ses bras.
Salut toi
Sacha,
comment allez-vous préparer le débat?
Ça va Sacha?
Une nouvelle occasion de s'afficher comme une candidate proche des gens.
On va à la baraque à fond, très bien.
Par opposition à Emmanuel Macron, jugé par beaucoup d'habitants arrogants, alors la candidate envoie une dernière carte postale au milieu de la foule avant son débat mercredi face au président sortant.
Nous n'avons pas du tout la même vision du pays, ni la même vision d'ailleurs de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que ce ne sera pas ce que j'entends depuis maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, d'outrances.
1h30 plus tard, la candidate repart pour 48 heures de mise au vert en Normandie pour préparer le plus sereinement possible son débat, que beaucoup voient déjà comme la revanche de 2017. À Saint-Pierre-sur-Dive, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Marine Le Pen accusée d'avoir détourné 137 000 euros du Parlement européen. Elle veut y voir un coup fourré de l'Union européenne. Elle conteste ces accusations. La candidate RN déjà mise en examen dans l'affaire de ses assistants parlementaires pendant son mandat d'eurodéputée. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour mercredi soir sur Europe 1 pour ce débat d'entre-deux-tours. La rédaction, nos éditorialistes mobilisés dès 20h, les enjeux et les derniers préparatifs des candidats. À 21h mercredi donc, le débat en intégralité et on se retrouvera ensuite pour le débrief. D'ici là, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont plus que quelques jours pour convaincre. Ils misent évidemment beaucoup sur ce duel télévisé. Les candidats et leurs équipes se préparent. Arthur Delaborde, tout est scruté dans les moindres détails.
Oui, rien n'est laissé au hasard, à commencer par le décor du studio de la Plaine Saint-Denis en région parisienne qui accueillera ce match retour. Les deux camps se sont mis d'accord sur une ambiance volontairement minimaliste pour que la priorité soit donnée au fond plutôt qu'à la forme. Les plans de coupe qui montrent un candidat quand l'autre parle, eux, seront très limités. Même la température en plateau a fait l'objet de discussions. Et les deux équipes ont opté pour 19 degrés. Certains arbitrages ont donc déjà été rendus, mais les négociations se poursuivent pour définir absolument tous les paramètres. Une charte encadrant la captation de ce débat sera signée demain par les proches des deux finalistes à l'ARCOM, le nouveau CSA. Trois tirages au sort doivent aussi se tenir au même moment. D'abord pour déterminer le placement d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui sera à droite et qui sera à gauche. Un autre pour désigner lequel des deux parlera en premier. Enfin, un troisième pour attribuer les loges. D'intenses tractations aussi évidemment lieu en coulisses sur le contenu du débat. Il s'agit notamment de déterminer l'ordre des thématiques abordées. Un point stratégique, car l'audience sera plus élevée au début de l'émission. Évidemment, plus faible après.
Arthur Delaborde, le débat d'entre-deux-tours, c'est donc à suivre mercredi soir sur Europe 1. Emmanuel Macron conserve jusqu'ici son avance dans les sondages à 12 points devant Marine Le Pen. Sondage Ipsos Soprasteria ce lundi. Le président candidat crédité de 56% des voix. La candidate RN, 44%. Attention, le second tour n'est pas joué. Mise en garde de deux soutiens d'Emmanuel Macron dans la presse. Beaucoup d'inconnus pèsent sur ce scrutin, à commencer par l'abstention, avertit l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans le Figaro. À ce stade, les deux candidats peuvent gagner. Tout peut se produire, estime pour sa part François Bayrou dans La République des Pyrénées.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine a commencé, celle dont on parle depuis des semaines, annonce ce soir le président Zelensky. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais concentrée sur cette offensive. C'est ce que déclare à l'instant le président ukrainien, alors qu'un peu plus tôt, Moscou affirmait avoir détruit un dépôt d'armes étrangères livré récemment à l'Ukraine dans la région de Lviv, expliquant avoir utilisé des missiles de haute précision, mais l'Union européenne accuse au contraire le régime de Vladimir Poutine de bombarder sans distinction les populations civiles, notamment donc dans l'est du pays, le Donbass, où ce soir le bilan est lourd, Guillaume Dominguez.
8 civils ont été tués lors de ces nouvelles frappes dans l'est du pays. 4 d'entre eux étaient en train de fuir la petite ville de Kremina, proche de Lugansk, selon le gouverneur local. Les 4 autres sont morts dans le bombardement qui a touché la région de Donetsk. Plus tôt dans la journée, des bombardements russes ont aussi touché la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, faisant 3 morts. L'un des obus est tombé sur un jardin d'enfants dans une zone habitée, un autre sur un centre d'aide humanitaire. Tôt ce matin, au moins 7 personnes ont été tuées, cette fois-ci à Lviv, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec la Pologne. Plusieurs missiles sont tombés sur des sites militaires, mais aussi sur des zones habitées. Cette ville était pourtant épargnée depuis le début de la guerre. Elle servait même de refuge à de nombreux Ukrainiens. La Russie veut ainsi maintenir la pression sur l'ensemble de l'Ukraine alors qu'elle prépare une grande offensive sur l'est du pays. Ce matin, dans une intervention télévisée, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a demandé aux habitants de la région de résister face aux occupants, craignant, je cite, la destruction de la région du Donbass.
Et Guillaume Dominguez. L'Afrique du Sud déclare l'état de catastrophe nationale après les pires inondations que le pays ait connues. Les pluies diluviennes ont fait plus de 440 morts et provoqué des dégâts considérables dans la région d'Durban. Un petit garçon de 3 ans est en état de mort cérébrale ce soir après s'être noyé dans la piscine de son père à Ambarès, au nord de Bordeaux. L'enfant a chuté dans l'eau malgré la présence d'un dôme rigide qui recouvrait la piscine. Nouvelle illustration des déserts médicaux en France. Nous sommes maintenant dans la Nièvre, à Nevers. La seule maternité du département a dû fermer ses portes temporairement. Ses 14 sages-femmes sont parties en arrêt maladie, épuisées par les sous-effectifs chroniques. Les femmes enceintes étaient donc obligées d'accoucher dans d'autres départements. Mais une solution vient d'être trouvée, Céline Géraud.
Effectivement, et c'est un véritable soulagement pour toutes les futures mamans de la Nièvre. Un accord vient en effet d'être trouvé avec la direction du centre hospitalier de Nevers. Dès demain, la maternité va rouvrir en s'appuyant dans un premier temps sur la réserve sanitaire, c'est-à-dire des sages-femmes retraitées ou qui officient par ailleurs dans le public ou dans le privé. Et puis, dès le 14 mai, le service fonctionnera à nouveau avec des sages-femmes recrutées à plein temps. Depuis 7 jours, la mairie, le conseil départemental, la députée de la Nièvre et tout le personnel de l'hôpital se sont mobilisés pour exiger du renfort. Une seule priorité, assurer des soins de qualité. David Boucher, représentant CFDT de la maternité.
Aujourd'hui, l'accord, c'est le travail reprend à la seule et unique condition qu'il y ait 3 sages-femmes la journée plus une infirmière et 2 sages-femmes la nuit et une infirmière. Au-delà de l'aberration, on était dans l'insécurité pour les sages-femmes, pour pouvoir travailler correctement et offrir les soins minimums et de qualité, et aussi pour les femmes qui accouchaient, et au-delà de ça, leur famille et les bébés.
Et c'est un nouveau souffle donc pour cette maternité qui assure en moyenne 1100 naissances. Par an.
Céline Géraud. Deezer prévoit d'entrer à la Bourse de Paris à la fin du mois de juillet. La plateforme musicale en ligne avait déjà tenté cette opération sans succès il y a 7 ans. Opération qui valorisera Deezer à un peu plus d'1 milliard d'euros. Ce n'est pas encore une chanson, mais c'est une vraie question pour les habitants de Colmar. Où est passé Schmoutzi à Colmar? Schmoutzi, c'est la mascotte du marché de Pâques, un lapin dodu, 8 kilos sur la balance. Il n'est pas en chocolat, c'est un vrai lapin, mais il est introuvable depuis samedi, au point que le maire de Colmar a porté plainte. Sur le marché, ce lundi, on ne parlait que de ça, Mélina Fachin.
Oui, cet après-midi, tout le monde se presse autour des différents enclos des animaux de basse-cour, un peu partout sur le marché de Pâques. Il y a quelques jours encore, l'attraction principale, c'était Schmoutzi, un immense lapin des Flandres de 8,5 kg, kidnappé ce week-end.
Il était gris et gros, il était bien souclé, là. Je comprends pas.
C'est minable comme acte. Pauvre animal.
Je sais pas, il parle de défenseur des animaux, après, je sais pas.
Bon appétit à celui qui l'a pris, quoi.
Didier Sitterlet, l'éleveur de cette bête de concours, est évidemment inquiet pour son animal.
Le problème, c'est que des lapins de cette taille-là, ils ont une nourriture bien spécifique.
scientifique. Donc ces gens qui l'ont pris, au lieu de lui donner de la carotte, ils vont plus se placer dans un chou ou un truc dans ce genre. C'est la mort qui suit.
C'est un couple de voleurs qui a sévi, filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Le maire de Colmar, Eric Stroman, a porté plainte, mais se dit prêt à la retirer.
Écoutez, si ce couple m'entend, je les invite à se mettre en rapport avec moi. On va arranger ça à l'amiable.
En attendant, c'est Ginette, une lapine moins dodue qui remplace Schmoudzi dans l'enclos et qui, par précaution, passe ses nuits à l'abri des regards dans un local de la ville.
Voilà, si vous avez vu Schmoudzi, n'hésitez pas. Mélina Fachin à Colmar pour Europe 1. Tout de suite, la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le temps ce mardi va commencer à se dégrader, Marlène Duré, en particulier dans le sud-ouest.
Oui Alexandre, une perturbation en provenance d'Espagne remonte sur le pays. Les pluies associées vont arroser demain l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées dès le matin et elles seront plus marquées du côté des Pyrénées-Atlantiques. Au fil des heures, ce risque de pluie remontera un petit peu plus au nord et pourra toucher le Limousin, le Poitou-Charentes et une partie du centre-Val de Loire. Quelques ondées peuvent aussi se déclencher sous un ciel moins chargé du côté de la Bretagne, de la Basse-Normandie et dans le Massif central, alors que dans le sud-ouest, il va pleuvoir sans discontinuer au sud de la Garonne, en tout cas pour l'après-midi. Les précipitations gagneront en fin de journée le Roussillon et on notera une limite plus neige qui s'abaissera franchement sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne vers 1200 ou 1300 mètres. La moitié est du pays restera à l'écart de cette perturbation. Nous aurons simplement du ciel voilé du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté et au Lyonnais. Prévoyez une alternance de nuages et de soleil sur le reste du pays et quand même encore du beau temps. On va trouver du beau temps, oui, de la vallée du Rhône aux Alpes et à la Côte d'Azur. Jusqu'à la Corse. Les températures maximales seront en baisse. Prévoyez 14 à 19 degrés sur une grande partie du pays. Un petit peu moins en Bretagne et près des côtes de la Manche avec 12 à 14. La mini, 8, oui seulement 8 degrés du côté de Tarbes. Et puis on atteindra encore les 20 degrés en Alsace, à Dijon, à Lyon. Comptez 21 à 23 près du golfe du Lion, c'est-à-dire entre Perpignan et Marseille.
Merci Marlène, on fera un nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1. Dans un instant, c'est Top à Wall Street. Et puis l'invité politique, on recevra ensemble sur Europe 1 Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaitre. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Il n'y avait pas de séance en Europe aujourd'hui. À Paris, la bourse est restée fermée. Et à Wall Street, les indices sont terminés en petite baisse.
Oui, une séance hésitante à Wall Street. Les indices étaient en hausse une heure avant la clôture. Mais finalement, le Dow Jones perd 0,11%, 34 411 points, moins 0,14% pour le Nasdaq. Toujours des tensions sur les taux obligataires aux États-Unis. Ça profite aux valeurs bancaires. Et puis, le secteur est soutenu aussi par les résultats de Bank of America. Résultats en baisse sur le trimestre, comme pour ses concurrentes, mais c'est quand même mieux que prévu. L'action monte de 3,2%. C'est du vert aussi pour Goldman Sachs, plus 2,7%, ou pour JP Morgan, plus 1,9%. Les valeurs pétrolières aussi progressent ce soir, par exemple Chevron ou ExxonMobil, secteur qui bénéficie de la hausse des cours du brut. Le baril WTI monte de 1%, au-dessus de 107 $ le baril.
L'action Twitter a encore fait parler d'elle ce soir. Beaucoup de mouvements, hein, en effet, depuis la proposition de rachat formulée par Elon Musk.
Oui, une très belle séance pour Twitter, plus 7,6%. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a créé la surprise jeudi dernier avec son offre d'achat du réseau social. Pour contrer cette offre, Twitter a adopté un mécanisme de pilule empoisonnée. Alors, cette mesure va permettre aux actionnaires de Twitter d'acheter des actions au rabais si l'un d'entre eux, évidemment, Elon Musk achète plus de 15% des parts. En fait, ça va diluer la part du milliardaire en augmentant le nombre d'actions. Et puis, il y a une autre opération en cours contre les plans d'Elon Musk. Le fonds d'investissement Thomas Bravo plancherait aussi sur une offre alternative pour acheter Twitter. La séance a été hésitante pour les autres grands noms de la tech. Apple perd un petit 0,1%. Microsoft gagne 0,2%. C'est un petit peu mieux pour Amazon qui gagne 0,7% ce soir.
Merci Claire Lemaitre. Il est 22h20 sur Europe 1. On va jeter un petit coup d'œil sur les unes de la presse pour demain matin, mardi 19 avril. Aujourd'hui en France, Le Parisien vous propose les 5 failles du projet de Marine Le Pen. 5 pages spéciales, pouvoir d'achat, épargne. Sur l'économie, par exemple, les réformes de la candidate du Rassemblement National se heurtent à un financement aléatoire, écrit Le Quotidien. Zoom également sur le programme de Marine Le Pen à la une du Quotidien économique. Les échos, les mirages du programme Le Pen, qu'on parle d'industrie, d'énergie, d'agriculture ou de la tech. Les échos vous proposent leur audit du programme économique, bien sûr, de la candidate du Rassemblement National. Marine Le Pen, décidément, à la une de la plupart de vos quotidiens demain matin. Libération, Le Pen, des racines et des haines. Qu'on parle de police, de religion, d'éducation, politique du tout carcéral, écrit Libé, programme scolaire sous surveillance, fermeture des frontières. Les fondamentaux de l'extrême droite sont bel et bien présents dans le projet de société de la candidate du Rassemblement National. L'Ouest France se focalise quant à lui sur le pouvoir d'achat en faisant un résumé de ce que justement les deux candidats, les deux finalistes à la présidentielle vous proposent. Revalorisation des salaires, remède face à l'inflation, imposition. Qui profiterait le plus des mesures économiques proposées par Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Et surtout, comment financer ces programmes coûteux? Des éléments de réponse à lire dans Ouest France. La Croix qui fait sa une sur ce week-end de Pâques, un week-end de Pascal en dépit de la guerre, alors que le pape François a supplié les dirigeants du monde d'écouter le cri de paix du peuple. La guerre s'est poursuivie sans relâche en Ukraine et dans d'autres pays du monde. 22h22.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en ligne avec Laurent Jacobelli. Bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National. Laurent Jacobelli, j'ai une première question pour vous. Est-ce qu'elle fait une bonne campagne d'entre-deux-tours, Marine Le Pen? Vous allez bien évidemment me répondre que oui, mais pourquoi?
Oui, je vais vous répondre oui pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a eu l'occasion, depuis le premier tour, d'expliquer un certain nombre de points de son programme à travers certaines conférences de presse. Et puis elle a continué ce qu'elle avait commencé déjà en septembre de l'année dernière, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des Français sur le terrain, sur les marchés. Elle est aujourd'hui dans le Calvados pour prendre le pouls de la population. Vous savez, c'est ce contact avec les Français qui lui avait permis très très tôt dans la campagne de comprendre que le pouvoir d'achat, c'est un des éléments clés de ce qu'attendaient les Français, et c'est ce qu'elle avait mis au cœur de son programme. Donc Marine Le Pen continue cette campagne qui, je crois, a montré ses résultats pour l'instant.
Alors, par rapport à ces visites de terrain, vous avez sans doute entendu la réaction de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui reproche à Marine Le Pen de faire une campagne en charentaise, expliquant que, contrairement à elle, Emmanuel Macron, lui, n'hésite pas à faire campagne là où il a le moins convaincu. Si l'on considère que Marine Le Pen, en effet, était aujourd'hui en campagne dans une commune qui l'a porté largement en tête du premier tour.
Je crois que ce qui caractérise la Macronie, et la déclaration de Sylvain Attal le montre bien, c'est qu'ils osent absolument tout, ils ont tous les culots. Le président candidat s'est littéralement caché pendant des mois, il a refusé de faire campagne, il s'est enfermé dans un mutisme caché derrière la crise internationale ou la crise sanitaire. Donc, et au mutisme d'avant le premier tour a suivi une espèce de vocifération permanente avec des insultes, des anathèmes contre Marine Le Pen, toujours pas de point programmatique à part la retraite à 65 ans. Et donc, il est bien mal inspiré aujourd'hui de critiquer Marine Le Pen qui, elle, je le répète, est sur le terrain depuis septembre dans des communes effectivement proches du Rassemblement National, mais aussi dans des communes qui ont voté pour d'autres candidats. Elle était il n'y a pas si longtemps à Avignon où je vous rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé premier. Vous savez, le président candidat, M. Macron, a l'habitude d'accuser les autres de ses propres turpitudes. Il nous soupçonne de devoir être autoritaire, lui qui a gouverné sans le Parlement, sans parler à ses ministres, avec des cabinets de conseil américains. Il soupçonne notre mouvement d'être plus ou moins violent, lui qui a tiré à coups de flashball sur des opposants politiques. Bref, Emmanuel Macron fait une espèce de psychologie qui groupe en cherchant chez les autres ses propres problèmes. Écoutez, nous verrons bien ce qu'en pensent les Français.
Alors justement, on est à deux jours, Laurent Jacobelli, du débat de l'entre-deux-tours. Elle se prépare comment, Marine Le Pen?
Marine Le Pen travaille. Elle travaille tous les sujets. Elle travaille sur les arguments à sortir pendant le débat. Ce que je crois, c'est qu'elle veut en faire un débat utile, serein, explicatif, que les Français sache exactement ce qu'elle propose pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise une fois qu'elle sera élue. Je pense que les Français ont vécu comme un traumatisme l'élection de ce président Emmanuel Macron qui avait fait toutes les promesses mais n'avait fait aucun programme et qui, le lendemain matin à l'élection, se sont réveillés avec la gueule de bois très vite vu les réformes de casse sociale qu'il a entrepris, vu la violence avec laquelle il a gouverné, vu le mépris qu'il a eu pour les Français. Elle, elle veut mettre carte sur table et donc pendant ce débat, elle voudra que le contrat entre les Français et elle soit très clair sur l'ensemble des propositions. Pas de petite clause en bas du contrat.
C'était ce lundi son dernier déplacement à Marine Le Pen avant le débat, avant de se mettre au vert, enfin en tout cas au préparatif. Est-ce que c'est ce qui lui avait manqué il y a 5 ans ? Est-ce que ça veut dire qu'il lui manquait de la préparation, du repos ?
Il lui manquait en tout cas probablement un peu de concentration parce qu'elle avait eu des réunions publiques, des visites d'associations jusqu'au dernier moment avant le débat et force est de constater, elle le dit, hein, qu'elle est arrivée fatiguée, presque épuisée au débat et que forcément ce n'est pas une bonne chose pour se concentrer et mener à bien ce type d'entretien. Donc Marine Le Pen a ceci, je crois, de rassurant qu'elle sait tirer les enseignements de ses erreurs. Moi, j'aurais bien aimé que Emmanuel Macron, pendant ce quinquennat, tire des enseignements de ses erreurs et ne soit pas dans l'autosatisfaction permanente à nous expliquer, à nous Français, que c'est nous qui n'avions rien compris et qu'il avait toujours raison. Je pense que c'est rassurant dans ces périodes compliquées, troublées, dans lesquelles nous allons avoir encore, malheureusement, à traverser des crises, d'avoir demain une présidente de la République qui fait en permanence se remettre en cause pour progresser et pour améliorer toujours ses propositions pour les Français.
À propos de ce débat d'entre-deux-tours, Marine Le Pen espère des échanges, dit-elle, sans invectives, sans fake news, sans outrance. J'ai envie de dire ça tombe bien, puisque c'est aussi le souhait formulé par Emmanuel Macron d'aller à ce débat sans agressivité et projet contre projet.
Écoutez, on peut espérer que le candidat qui, il y a quelques jours à Marseille, laissait un de ses soutiens insulter littéralement les électeurs de Marine Le Pen en les traitant de racistes, sans broncher, aura compris qu'il avait fait une erreur et qu'il vaut mieux un débat serein que ce candidat qui parle en permanence d'extrême droite, de racisme pour faire peur aux électeurs avec un mépris terrible pour les Français qui savent très bien décrypter la réalité, eh bien on sera revenu à de meilleures intentions. Espérons que Emmanuel Macron sera un homme neuf pour ce débat, un homme sans mépris, sans violence verbale, sans dédain, sans morgue naturelle. J'ai tendance à penser que les gens ne changent pas en 2 jours, mais on verra bien.
Votre candidate, Marine Le Pen, et certains de ses proches sont accusés par l'Office européen de lutte antifraude d'avoir détourné au total 600 000 euros d'argent public européen au cours de leur mandat d'eurodéputé. On imagine qu'Emmanuel Macron peut demander mercredi soir des comptes à Marine Le Pen sur ce sujet.
Ah bah écoutez, pourquoi pas, c'est une affaire qui date de 2016, qui ressort opportunément, dans laquelle nos élus n'ont évidemment rien à se reprocher. Tout cela est parti de l'Union européenne, cette même Union européenne d'ailleurs qui a déclaré, dont certains fonctionnaires ont déclaré qu'ils attendaient après l'élection pour créer un embargo sur le pétrole avec la Russie parce qu'il y aurait des conséquences sur le prix d'énergie en France qui auraient pu nuire à la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense que l'Union européenne lâche les chevaux pour protéger son petit fantassin, sa petite marionnette qui est Emmanuel Macron, mais les Français ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, ça vient bien opportunément au moment où l'affaire McKinsey n'est pas remise en avant par le parquet national financier, alors que le vrai scandale, il est là, d'avoir donné les clés de la gouvernance de la France à un cabinet étranger qui travaille aussi pour les États-Unis et qui n'a jamais été élu par personne et qui nous coûte des millions d'euros sans jamais payer d'impôts en France. Vous voyez, si Emmanuel Macron veut plus de justice, il devra faire le ménage dans sa propre gestion.
Emmanuel Macron a verdi son projet hein, pour cet entre-deux-tours. Il promet un quinquennat, s'il est réélu, tourné vers l'écologie. Pendant son meeting samedi à Marseille, Emmanuel Macron a aussi accusé Marine Le Pen d'être à l'inverse climato-sceptique.
Laurent Jacobelli. Quand on parlait tout à l'heure de fake news et d'anathème, je crois qu'on y est. Non, Marine Le Pen se place dans le cadre des accords de Paris. Je pense qu'elle constate, comme tout à chacun, qu'il y a un dérèglement climatique, qu'il y a une urgence à sauver notre environnement, mais la méthode ne va pas être la même. Emmanuel Macron fait du marketing.
C'est pas la priorité. L'écologie, c'est pas la priorité dans le programme de Marine Le Pen, Laurent Jacobelli.
L'écologie, elle est liée à certaines de nos priorités. Parce que c'est un ensemble. Quand Marine Le Pen dit qu'il faut retrouver une industrie française, qu'il faut mettre en avant le localisme, c'est-à-dire produire, consommer, recycler près de chez soi, c'est fondamentalement écologiste. Quand Emmanuel Macron signe des traités de libre-échange à tire-larigot avec ses partenaires européens, eh bien, ce sont des supertankers qui arrivent de Chine pour délivrer des produits en France, mais qui polluent, comme à peu près chacun, 1 million de véhicules. Et donc, c'est le mode de gestion planétaire de l'économie que défend Emmanuel Macron, qui pollue. Or, notre modèle à nous, économique, sera beaucoup plus sain en matière écologique. Vous voyez, il y a une forme d'incohérence totale chez Emmanuel Macron et un décalage total entre les paroles et les actes.
Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce soir. On était maintenant, on verra, hein, projet contre projet, justement, on est maintenant à moins de 48 heures du débat d'entre-deux-tours que vous suivrez en direct et en intégralité mercredi soir sur Europe 1. 22h31. Vous êtes sur Europe 1 et c'est l'arrivée tout en... Je ne sais pas quel était ce jingle, ça vous plaît?
C'était un jingle un peu comme un génie,
c'est ça,
qui apparaissait.
L'apparition de d'Olivier Delacroix.
Exactement,
voilà.
Vous avez débouché une bouteille là, et
vous, avez surgi dans le studio.
Exactement, pour adoucir un peu tous ces propos d'actualité, oui, qui sont quand même... Hein.
On est à 5 jours,
ça va mieux avec le micro, on est à 5 jours du deuxième tour et on est à 48 heures du débat d'entre-deux tours.
Et il s'en dit des choses, et il s'en promet des choses. Vous devriez, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, noter sur un petit carnet tout ce qu'on vous promet maintenant. Et nous verrons bien ensuite.
Bah déjà, on écoutera le débat d'entre-deux tours mercredi soir.
Avec grand plaisir et avec une grande attention, mon cher.
Voilà.
Cela risque en tout cas d'être fort intéressant, vu... que le dernier avait été quand même gagné à plate couture par le président Macron. Ça sera intéressant de voir les progrès que Marine Le Pen aura fait.
Eh bien écoutez, nous verrons.
Mm-hmm. Elle a un morceau en face, hein, quand même. Hein.
Pardon ?
Elle a un morceau en face, quand même.
Écoutez...
Je ne vais pas dire, mais bon.
Ce sont les finalistes.
Oui, mais bon, vous savez, parfois, il y a des surprises dans la finale. Il y a la Champions League, et puis parfois émerge comme ça un candidat qui a l'habitude de jouer en Ligue 1, voire... Bah écoutez, ça se joue, hein, c'est un match,
c'est
sur un dimanche.
Vous avez l'habitude de filer la métaphore footballistique.
Exactement, vous savez, vous regardez ce qui se passe dans les stades, et il y a beaucoup de la France dans ces stades. Vous savez, en ce moment, vous regardez un petit peu l'humeur générale et ce qui se passe dans les stades. Les supporters qui maintenant se croient tout permis et pensent que quand leur équipe ne gagne pas, envahissent le terrain par exemple. Ça c'est nouveau, et il n'y a qu'en France que ça existe.
Bon.
Oui, il y a beaucoup de choses, mon petit Alexandre, qu'il faut que je vous raconte.
Un reflet de la société.
Exactement. Mais vous devriez me faire une petite chronique. Remarque, ça ressemble à une petite chronique.
Vous avez commencé, là.
Exactement. Donc, on vous retrouve, ça ne nous empêche pas de vous retrouver à 23h.
Sans faute.
Pour de l'actu et de la vraie, cette fois-ci.
Voilà.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Olivier.